RCF. Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques années, alors que je dirigeais une radio chrétienne, j'ai fait face au moment du mariage pour tous à une scène que je n'oublierai jamais. Alors qu'avec notre rédac chef de l'époque, nous tentions de trouver une réponse équilibrée au débat et à l'information, nous nous sommes retrouvés face à un fait que nous n'avions jamais imaginé, à savoir le centre LGBT qui nous a dit formellement « un jour nous ne viendrons plus dans vos émissions car nous sommes avant tout des militants, nous ne sommes pas des intellectuels, nous ne savons pas débattre ». Ce jour-là, je compris que la société du dialogue et du débat d'idées était en train de disparaître et que la question du fait majoritaire s'imposait de plus en plus dans notre société, révélant ainsi les contours d'une des problématiques de nos démocraties contemporaines, à savoir comment la prédominance d'une pensée majoritaire peut-elle, par sa seule hégémonie, rendre inaudibles des voix minoritaires. Et quand je dis inaudible, je l'entends sous deux acceptions. Premièrement, celle de ne pas être entendu, un peu comme dans le film Don't Look, où on annonce l'arrivée d'une météorite qui sera la fin du monde et que personne ne veut croire, mais aussi inaudible dans le sens de l'impossibilité pour un interlocuteur d'évoquer ou d'entendre parler d'un sujet tellement il y a de souffrance ou d'idéologie derrière. Il devient donc difficile de parler d'immigration, d'avortement, de fin de vie, de mariage pour tous, car le fait de la pensée majoritaire nous en empêche. Alors oui, d'un côté, il est le garant d'une démocratie, assurant que la volonté générale soit respectée. De l'autre, il peut devenir un instrument d'oppression, noyant sous son poids la diversité des idées et des opinions. Alors comment assurer que la démocratie ne se limite pas au simple règne de la majorité, mais soit aussi un espace d'expression et d'échange pour toutes les voix? Bien sûr, il existe les chambres hautes, les chambres basses, l'Assemblée nationale, le Sénat, les endroits délibératifs de nos départements et de nos régions. Mais peut-être faut-il y introduire un peu plus de proportionnel dans notre mode électif, peut-être plus d'assemblées citoyennes pour débattre, peut-être aussi retravailler notre responsabilité à nous, les médias, à nos manières, à nous, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs, de comprendre et d'utiliser les médias. Peut-être faut-il simplement réintroduire dans notre société une culture du dialogue et du respect mutuel. Voilà. Bref, le chantier est énorme, il n'y a pas beaucoup de solutions, il y a quelques pistes. Remontons-nous les manches. Bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, un numéro très éclectique. On va parler du droit des femmes, puisque se tenait hier la journée internationale du droit des femmes. Dans notre dossier, on évoquera la notion de militantisme et d'entrepreneuriat. Peut-on être à la tête d'une association et avoir une dynamique entrepreneuriale? C'est ce qu'on verra avec nos trois invités qui nous attendent en plateau. Et puis on terminera, on parlera de jeux de société avec Bijou, qui est une entreprise de Serious Game et qui a créé un jeu spécifique pour les femmes ou à destination de ceux et de celles qui ont envie de mieux comprendre ce que c'est que de vivre une carrière au féminin. Le jeu s'appelle 1000 pas et on recevra sa cofondatrice Isa Terrier, puis bien évidemment Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais celle qui nous attend tout de suite, c'est Anouk Dequet, qui est présidente de FCE, Femmes Chefs d'Entreprise, une vieille association de plus de 75 ans maintenant et qui œuvre à regrouper et à rompre la solitude des femmes chefs d'entreprise.
L'invité éco, Patrick Longchamp.
Bonjour Anouk.
Bonjour Patrick.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de FCE, Femmes Chefs d'Entreprise. On est le lendemain des Journées des Droits des Femmes et on le dit tous les jours que Dieu fait dans cette émission. Il n'y a pas besoin d'avoir une Journée des Droits des Femmes pour en parler, mais c'est l'actualité du moment. Donc on va évoquer FCE, Femmes Chefs d'Entreprise, un réseau de femmes chefs d'entreprise. Anouk Dequet, vous êtes présidente nationale de cette association. C'est pas naturel pour une femme de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat.
Le fait que les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat, ça peut être compliqué parce que si vous voulez, ce n'est pas naturel et je vous rejoins dans le fait que c'est peut-être pas ce qu'on leur explique dès qu'elles sont jeunes, bien qu'il y ait un changement notable dans les générations. Mais elles sont parfois, j'allais dire, rebutées par, ou craintives du moins, par le fait que il y a, ça demande plusieurs vies, en fait, dans une vie, l'entrepreneuriat. Mmh. Et ça demande parfois de faire des sacrifices de vie de famille ou de vie personnelle. Il ne faut pas se le cacher, qui sont importants. Et elles n'ont pas obligatoirement envie ou elles sont craintives par rapport à cet impact dans la vie personnelle.
Et puis, il y a aussi, des freins, Anouk Dequet, dans, ce lancement. C'est les peurs de ne pas être crédible, c'est ce que j'appellerais des pensées limitantes, la peur de ne pouvoir pas avoir accès au prêt. Enfin, il y a beaucoup d'éléments qui sont...
Alors, c'est le syndrome de l'imposteur qui est toujours existant. C'est la peur aussi de ne pas de l'échec, parce qu'elles sont très conscientes de la vie de famille et elles mettent en jeu quelque part la famille si jamais il y a un échec de leur entreprise. Et ça, elles ont une crainte forte par rapport à ça. On l'a vu parmi toutes les enquêtes que nous faisons, nous dans notre réseau, mais aussi dans d'autres réseaux. Elles le font plus tardivement que les hommes quand elles vont vers l'entrepreneuriat. Environ un an ou deux ans de plus que les hommes. Elles ont certaines difficultés quand même, encore, même si cela décroît, elles ont encore quelques difficultés à l'accès au financement. La création de start-up, peu de femmes en création de start-up, grosso modo, ça doit être une start-up sur 5 qui est créée par des femmes en 2022. Hein. Et elles représentent 2% des levées de fonds, ce qui n'est pas quand même beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir une crainte peut-être des investisseurs du temps imparti qu'elles ont pour créer une start-up ou pour faire avancer ou développer une start-up, parce que justement elles se consacrent énormément encore à la vie familiale. Elles le font, elles créent leur entreprise souvent après la naissance du premier enfant.
Ouais.
Pour être déjà assis sur une organisation et avoir créé ça dans leur vie, parce que vous savez, il y a la fameuse horloge biologique.
C'est ça qui joue aussi.
Ça joue aussi, il faut oser le dire. Après, c'est plutôt la notion de temps, la notion d'investissement, pas simplement financier, la notion aussi de sacrifier du temps de famille et du temps enfant qui leur fait peur. Après, vous savez, l'entrepreneuriat, même pour les hommes, ce n'est quand même pas si facile que ça. C'est une grande solitude, il ne faut pas l'oublier. Et ce que l'on fait chez FCE, c'est de lutter justement...
Rompre
cette solitude-là, partager des expériences, partager des savoirs, partager aussi des errances ou des questions, des questionnements que l'on peut avoir quand on est chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on est un chef d'orchestre. Donc il faut savoir un peu tout sur tout. C'est pas évident quand même. Quand vous voyez l'épaisseur du code social et l'épaisseur du code commercial et l'épaisseur du code de l'environnement, vous vous dites comment je peux tout savoir ?
C'est ça.
Ce n'est pas possible. Donc chez nous, FCE, le but du jeu, c'est de partager nos expériences qui, sur le terrain, démontrent comment il faut faire pour gérer une entreprise. Ça va de l'embauche d'un premier salarié à un prud'homme, à un licenciement, à un moment d'investissement capitalistique, ça va la transmission. C'est beaucoup de choses, en fait.
Et c'est ça que vous apportez chez FCE. On voit poindre aussi dans le monde, dans l'entreprise. Est-ce que vous pensez, vous, Anouk, vous êtes dirigeante d'une agence de communication, donc vous êtes chef d'entreprise, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une manière de manager, de diriger son entreprise qui est différente quand on est une femme que quand on est un homme, vous qui côtoyez aussi les autres réseaux et que vous peut-être parfois échangez sur votre manière de voir, et je pense particulièrement à des sujets qui sont dans l'actualité. Je pense par exemple à l'arrivée aujourd'hui dans les entreprises de réflexion, ou même dans la loi, des congés menstruels, par exemple, qui sont des vrais sujets aujourd'hui dans les entreprises.
Bien sûr qu'on réfléchit à des questions diverses et variées qui ne sont portées par l'actualité et que l'on regarde ce qui se passe au niveau législatif et au niveau des événements politiques. Même si nous, notre association est résolument apolitique, on est clair là-dessus. Mais si on parle du management, oui, il y a quand même des différences, on peut le constater, parce qu'une femme va être très pragmatique, très très pragmatique. Donc parfois elle va peut-être manquer d'audace, mais parce qu'elle a le pragmatisme de la réussite et d'investir quelque part elle peut avoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est très pragmatique, très concrète dans son management. Par contre, on constate que les femmes sont très intéressées, très portées vers tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est vert, tout ce qui est sociétal et social pour améliorer les conditions de travail. C'est des sujets qui les préoccupent énormément. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises qui sont depuis 2-3 ans créées par des femmes sont dans ces sujets-là. Okay. Donc, il y a un management peut-être plus nuancé parfois. Allez, on va dire ça comme ça.
Quel chemin
très pragmatique au niveau de la finance.
Pour terminer, Anouk Dequet, quel chemin il reste à parcourir pour que finalement il y ait une forme d'égalité dans l'envie d'entreprendre entre les hommes et les femmes?
Déjà qu'il y ait déjà une égalité de rémunération, parce que savez-vous que on parle souvent dans les entreprises, mais savez-vous que les chefs d'entreprise femmes sont souvent moins rémunérés que les chefs d'entreprise hommes.
Toujours à cause du pragmatisme.
Du pragmatisme, du fait qu'elles qu'elles réfléchissent beaucoup à demain et peut-être qu'elles n'ont pas dans le couple. Alors c'est compliqué hein, dans la vie de famille. Ouais. Parce que la vie de famille avec l'entreprise femme tenue par une femme, c'est vraiment très lié. Mais qu'est-ce qu'il faudrait accomplir? Il faudrait faciliter encore plus l'accès au financement.
Au prêt, oui, ça c'est vraiment la clé.
Et non seulement au prêt, mais même à un accompagnement de la gestion financière et managériale des femmes chefs d'entreprise, qu'il y ait des programmes dédiés aux femmes avec leur façon de voir la création d'entreprise et surtout le management d'une entreprise, la pérennité d'une entreprise. Je pense qu'il faut aussi, en termes éducatifs, dès le plus jeune âge, c'est pour ça que nous participons à 100 000 entrepreneurs et à d'autres actions, puisque nous faisons beaucoup, beaucoup de mentorat au sein de FCE, auprès des jeunes femmes, auprès des jeunes créatrices, les micro-entrepreneuses. Nous faisons beaucoup de mentorat avec des Vive ma vie sur des journées entières. Je pense qu'il faut, mais on y arrive, que de plus en plus les mères poussent leurs filles à dire voilà, tu peux prendre ton indépendance et tu peux monter ta boîte. Et il n'y a pas de sacrifice, ce n'est pas si sacrificiel que ça entre la vie de famille et la vie. Et qu'il ne faut pas porter des jugements sur une jeune femme qui voudrait monter sa boîte en disant mais tu ne vas pas avoir de temps pour tes enfants. Arrêtons ces phrases qui sont quelque part assassines pour l'entrepreneuriat.
C'est ça, et qui...
Ensuite, mettons en avant des rôles modèles aussi, des femmes qui ont des parcours de vie, qui étaient parfois salariés, qui ont changé de parcours de vie, qui deviennent entrepreneuses, ou des entrepreneuses qui, dès le départ, créent, mettons-les en avant, de plus en plus, pour que ça donne envie, on le sait. Je pense que c'est quand même très important. Et nos réseaux, et particulièrement FCE, bien entendu,
bien sûr,
sont très importants pour accompagner ces femmes-là. Donc peut-être de soutenir aussi des réseaux tels que nous sommes, qui ont un travail social et sociétal très fort dans ce type de choses.
Merci. Merci beaucoup, Anouk Dequet, d'avoir été notre invitée éco de cette,
avec grand plaisir,
de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Vous voulez revenir cette semaine sur la question des impôts. Est-ce la chute surprise des recettes fiscales annoncées cette semaine par Bruno Le Maire qui vous inspire cette thématique, Pierre?
Oui, bien sûr, mais au-delà de ces annonces, je voudrais vous faire part d'une réflexion plus large qui nous repose à tous la question de l'utilité de nos impôts. D'abord, c'est vrai que les déclarations du ministre de l'Économie qui nous annonce un écart de 7,7 milliards d'euros entre les prévisions du PLFG et les recettes effectivement enregistrées en 2023 sont tout à fait préoccupantes. Dans un contexte qui est déjà difficile, avec la dette abyssale que nous avons accumulée, ça n'est pas de très bon augure.
Alors pourquoi cet écart, Pierre?
Selon le ministère, cela s'explique par la morosité ambiante des grandes entreprises, par un recul des recettes sur la TVA, moins 1,4 milliard quand même, mais aussi par une moins-value importante de l'impôt sur le revenu, en recul lui aussi d'1,4 milliard. Alors dans le contexte actuel qui ne prévoit pas un retour de la croissance, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de se lancer dans un vaste plan de réduction des dépenses publiques pour tenter de rééquilibrer les comptes. C'est en tout cas ce que nous a promis M. le maire.
Alors voilà qui va certainement réjouir tous ceux qui estiment que nous sommes tous surimposés et que la France est la championne du monde des impôts.
Oui, et ils auront raison. Mais ceci ne doit pas nous abstenir d'une réflexion plus fondamentale sur le rôle des impôts et sur leur utilité. Les recettes fiscales et la dépense publique revêtent une importance considérable pour chaque communauté, comme vous pouvez l'imaginer.
Alors, ce qui ne doit pas nous empêcher non plus d'exiger une certaine efficacité dans les services de l'État, en contrepartie des taxes et des impôts versés.
Non, bien sûr, mais il faut aussi reconnaître que l'État, qui apparaît parfois comme une contrainte du fait des règles fiscales, sociales et environnementales, peut être aussi un facilitateur par la formation des salariés, par les infrastructures mise au service de l'entreprise, par son service de santé publique, mais aussi par les aides financières qui sont apportées, soit par des subventions directes, on l'a vu au moment de la crise du Covid, mais aussi des aides remboursables, des exonérations fiscales, etc. Comme nous le rappelle la pensée sociale chrétienne, des finances publiques équitables et efficaces produisent des effets vertueux sur l'économie. Alors là encore, on peut dire que le marché et l'État doivent agir de concert l'un avec l'autre, et donc devenir complémentaire.
Merci beaucoup Pierre Collignon. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons peut-être même aux assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On aura peut-être le plaisir de s'y croiser. Nous, on continue tout de suite en musique dans l'écho des solutions. Avant d'aborder une question absolument passionnante, est-ce qu'on a le droit d'être une association et d'avoir une pensée d'entrepreneur? Est-ce qu'on a le droit aussi de croître ou faut-il que l'on reste juste un bon gestionnaire en père de famille? C'est le sujet du dossier de l'écho des solutions. Une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec tous nos invités. C'était Willis Ray sur RCF's Doors. Nous, on ouvre les portes justement de la question du dossier de cette semaine dans l'écho des solutions. La question est la suivante. Peut-on être entrepreneur et militant? Ou plutôt, peut-on être militant et entrepreneur? Quelques éléments de réponse dans notre dossier de l'écho des solutions de cette semaine.
L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
Voilà, il est temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine consacré à la question grossir ou grandir, comment demeurer entrepreneur et militant malgré le changement d'échelle. Tout d'abord, avec vous, Florence Boisvert, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Avec vous, on verra justement toute cette question qui touche le monde associatif, de la question de la fiscalité. Alors, il y a énormément de choses qui changent en ce moment. La question sur le mécénat est largement remise en question. Niche fiscale, pas niche fiscale. Comment ça peut aider justement au changement d'échelle? Comment ça permet de garder ou pas la dimension militante ou pas, on verra tout ça avec vous. En face de vous, Isabelle Oyo. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci beaucoup. Vous êtes la fondatrice de Scale Changer, une société qui accompagne les entreprises à impact social et associations, entreprises et associations à impact social, à changer d'échelle. Et on verra ce que ça veut dire que changer d'échelle. Je disais en introduction que RCF était dedans. Et de fait, c'est un des grands questionnements qu'ont les associations quand à un moment donné, elles doivent grossir ou grandir. On verra tout ça avec vous. Et puis je salue notre homme de la semaine. Bonjour François Maillot.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis nos studios lyonnais. Vous êtes fondateur et dirigeant de la société Alterian, une société qui justement accompagne les associations dans leur levée de fonds, mais aussi dans leur stratégie de communication et de développement. Et vous êtes enseignant à l'EM Lyon, spécialiste du monde associatif, puisque vous avez fait une thèse sur la gouvernance associative. Et à tous les trois, j'espère qu'on va réussir à poser à toutes nos questions. Je vais commencer avec vous, François Maillot, parce que vous êtes donc, ce que je disais un peu, l'expert du monde associatif, du moins, en tout cas, dans sa gouvernance et dans les enjeux de la gouvernance. Comment, rapidement, on pourrait définir, finalement, ces deux mots qui sont peut-être un peu antagonistes, entrepreneur, c'est-à-dire, quelque part, je fais du business, je crée une entreprise, je dirige une entreprise, et le côté militant, qui est plutôt défendeur de cause, de mission.
Tout à fait. Pour faire appel peut-être à une figure de rhétorique, on pourrait parler d'un oxymore. Alors on appelle comme ça hein, quand il s'agit de mettre ensemble deux termes qui ont a priori un sens opposé.
Je vais réviser ma rhétorique en rentrant ce soir.
Tout à fait. Par exemple, Patrick, on parle de douze violences. Et donc, est-ce que l'entrepreneur militant, ça serait pas un oxymore, puisque l'entrepreneur renvoie, vous le disiez, peut-être à une conception très économique hein, de chef d'entreprise, de créateur d'entreprise. Ce monde économique libéral peut-être aussi. Alors que le mot militant, si je prends sa définition, renvoie plutôt à l'adhérent d'une organisation politique, d'une organisation syndicale, d'une organisation sociale, associative, ce qui nous intéresse aujourd'hui, et qui participe activement à la vie de cette organisation. Donc là, ça renvoie très vite au monde social. Donc est-ce qu'on peut mettre ensemble ces deux mots? Je suis allé un tout petit peu plus loin pour essayer de regarder l'étymologie de militant. Et ça va peut-être vous surprendre.
Allez-y.
L'étymologie de militant, ça vient du latin militare, qui signifie être soldat, faire son service militaire. Alors ça, c'est assez drôle, parce que le militant, qui est souvent vu comme celui qui s'oppose à l'ordre établi, parfois même dans ses manifestations qui s'oppose à la police, voire même à l'armée, viendrait de l'étymologie être soldat, faire son service militaire. Donc plus sérieusement, on voit bien que ces deux mots, a priori, semblent contradictoires. Et en fait, on pourrait aller peut-être un petit peu plus loin en regardant qu'ils sont peut-être plutôt complémentaires. En effet,
comment peut-il complémentaire, justement?
C'est-à-dire, si on voit effectivement l'entrepreneur comme étant un chef d'entreprise, il n'y a pas grand-chose peut-être à faire, si ce n'est que on peut élargir cette définition de l'entrepreneur avec tout simplement étant celui qui entreprend, celui qui prend des initiatives, celui qui prend des risques. Schumpeter, qui est souvent cité comme l'auteur fondateur de la réflexion sur l'entrepreneuriat, finalement disait que l'entrepreneur, c'est un innovateur qui a le goût de la prise de risque. Et finalement, cette attitude, elle peut correspondre aussi à celle du militant, et qui lui aussi prend des risques, qui lui aussi a de l'audace, et qui lui aussi innove dans son domaine. Donc finalement, entrepreneur militant, plutôt qu'un oxymore, ça serait peut-être, et c'est là où je voulais en venir, une sorte de dialectique. C'est-à-dire, finalement, on peut être un peu entrepreneur, ou un peu beaucoup entrepreneur, un peu beaucoup militant. Et donc, où c'est que vous mettez le curseur entre votre dose d'entrepreneur et votre dose de militant? C'est peut-être un des éléments de notre émission.
Alors, Isabelle Ouyot, quand vous entendez cette définition d'entrepreneur et militant, vous qui agissez à la fois sur la partie stratégique, puis après sur la partie opérationnelle du changement d'échelle, vous donneriez une définition similaire à l'entrepreneur militant, ou est-ce que vous avez, vous, peut-être une autre vue, une autre vision de ce que ça pourrait être?
Je pense que c'est assez complémentaire de ce que François vient d'évoquer. Moi, j'aurais dit peut-être avec des termes beaucoup moins beaux et fleuris, mais que c'est quelqu'un qui veut changer le monde, qui le fait justement avec audace, avec innovation, et qui va se dire je m'engage. Je pense qu'il y a une notion d'engagement et d'énergie pour faire changer les choses, et qu'on le fait avec une dimension entrepreneuriale, donc en effet qui est autour de la prise de risque, de la prise d'initiative. Donc.
Françoise, vous êtes confrontée, vous aussi, à ces entrepreneurs militants quand, à un moment donné, vous devez peut-être, en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, rentrer dans la question du modèle économique et comment ils réagissent, ces militants entrepreneurs ou ces entrepreneurs militants? C'est des questions qu'ils savent aborder, ou il faut les accompagner pour aborder ces questions?
Il est clair qu'il faut les accompagner. Ils ont réel besoin d'accompagnement. Mais avant tout, ils sont entrepreneurs, et ce sont des entrepreneurs qui militent pour leur projet. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout opposé ou opposable. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un projet?
un projet, c'est savoir fédérer des enthousiasmes, des compétences, de l'innovation, du travail, de la volonté, mais surtout, je le répète, des enthousiasmes autour d'un projet, un projet bâti à partir d'une idée. Ce projet a besoin ensuite de se structurer.
C'est là où vous entrez en jeu.
Et c'est là où on peut entrer en jeu en tant qu'accompagnateur, accompagnateur sur des projets techniques.
Mais c'est pas un peu compliqué des fois, parce que quand on arrive, alors on a bien compris hein, qu'entrepreneur et militant, on pouvait être les deux, mais souvent quand le militantisme est là, on se met des barrières automatiques en disant non, moi, telle catégorie de financement, je n'en veux absolument pas, alors qu'il existe peut-être quelque chose qui correspondrait à leurs valeurs, mais parce qu'ils ont une idée reçue de tel type de financement, ne voudrions pas y aller. Quoi qu'il en coûte, et il y a quelque chose de l'ordre de la pédagogie à faire pour leur expliquer que on peut être militant et quand même développer économiquement sa structure.
Être militant ne signifie pas forcément...
Rapprochez-vous un petit peu du micro, voilà, on vous entendra mieux.
Être militant ne signifie pas forcément avoir des idées arrêtées ou préconçues par rapport à certains types de financement. Le militant, il s'accroche au développement du projet qu'il a mis en œuvre. Pourquoi ? En complément d'un service public qui n'existe plus, en complément d'un manque qu'il vit dans la société et qu'il souhaite contribuer à remplir, en tout cas dans la mesure de ses moyens. Après, se pose le problème de construire ces moyens, fédérer des moyens qui existent. Ils sont de tous ordres. Mmh. La problématique de l'accompagnement, elle est que plus un projet se développe et plus il se développe vite, plus il a besoin d'accompagnement administratif. Cet entrepreneur qui est à l'origine du projet, qu'il faut voir sortir, la naissance de son projet, que je dirais entrepreneurial, pas au sens entreprise économique, au sens entité. Je crée une entité, cette entité, elle va avoir une activité, elle va avoir un besoin de support administratif. La priorité étant le projet, c'est souvent la partie formaliste, juridique, administrative qui souffre, et auquel cas, il est certain que des accompagnements de professions de notre type trouvent leur place.
Je vais prendre un exemple très concret. Je vois beaucoup d'associations qui se développent, qui me disent « Ah là là, on a fait 80 000 euros de chiffre d'affaires, faut pas qu'on le dépasse, sinon on va être assujetti à la TVA. » Et c'est presque une catastrophe dans le modèle économique de ces associations, alors que c'est pas si mal que ça, à un moment donné, de se dire qu'on va payer de la TVA.
Non.
Non, mais ça semble être une barrière pour beaucoup.
La première barrière est que dans l'équilibre économique du projet et de l'activité, en tout cas, l'idée est tout à fait répandue.
Alors, il y a eu chute de verre d'eau pour nos auditeurs. Voilà, nous sourions parce qu'il y a eu chute de verre d'eau due à un grand geste. Donc, continuez, Françoise. Allez-y.
Donc, je reviens sur ce que je disais un petit peu plus tôt. L'idée préconçue, c'est surtout qu'à partir du moment où on relève d'une association 1901 à but non lucratif, l'objet est de faire un résultat à zéro ou limite déficitaire. Or, la loi 1901 ne dit pas qu'il faut faire un résultat à zéro ou déficitaire. Elle dit que c'est une gestion de bon père de famille.
Et il n'y a pas de reversement des bénéfices.
Et il n'y a aucun partage de bénéfices. Le bénéfice, en tout cas l'excédent de recettes par rapport aux charges, doit contribuer à financer ce qu'on appelle le projet associatif. Donc l'association, elle est bâtie autour de cela. Si accessoirement, il y a des produits qui sont de nature traditionnelle de prestation de services, de vente de marchandises, qui pourraient être considérés comme une activité économique ordinaire du secteur concurrentiel, il existe des solutions, notamment la sectorisation et éventuellement la filialisation de ces activités qui permettent de générer du résultat qui contribuera à financer le projet associatif.
François Maillot, justement, dans cette, vous parliez de curseur il y a quelques instants. Comment justement, dans un conseil d'administration, on arrive à mettre ce curseur entre, j'ai envie de dire, la nécessité, je ne vais pas parler d'entrepreneuriat, mais la nécessité de les nécessités économiques et la notion militante qui parfois ne se répondent pas forcément l'une par rapport à l'autre parce qu'un déploiement économique doit peut-être parfois faire l'impasse sur la question du militantisme, sans l'oublier bien évidemment.
Mais oui, c'est vrai qu'on voit parfois pas mal de malaise aujourd'hui dans le monde associatif parce qu'il y a des oppositions entre les personnes qui voient avant tout, qui ont avant tout le souci de la gestion, de la saine gestion de leur association, et ça c'est très bien bien sûr, et donc qui ont tendance à gérer et à diriger leur organisation, leur association, comme effectivement une sorte d'entreprise associative, et le plus important étant le suivi de la gestion, c'est un peu le mythe du tableau Excel, où il faut que tout aille bien de ce côté-là. Et puis d'autres qui, en permanence, disent « Mais attention, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre le sens qui a amené à la création de cette association ?» Finalement, au fond, on bosse pour qui ? On bosse pour quoi ? Quels sont les bénéficiaires de nos actions ? Ne les oublions pas. On voit aussi des oppositions parfois entre les tenants d'une croissance qui disent il faut que notre association se développe et une croissance de son activité, et puis ceux qui sont plus prudents et qui disent « Oula, il ne faut pas aller trop vite, il faut plutôt se consolider ». On voit aussi parfois des malaises entre des personnes qui sont un peu, c'est un peu une sorte de remake des anciens et des modernes, si on regarde le théâtre classique d'il y a quelques centaines d'années, où il y a les anciens qui sont plutôt attachés à la période de la fondation de l'association, et puis des modernes, c'est pas une question d'âge uniquement, qui eux voudraient faire évoluer le projet associatif. Donc on vit aujourd'hui pas mal de malaises dans le secteur associatif qui justement ont parfois leur origine dans ce dosage entre la partie entrepreneuriale et la partie militante.
Mmh. Isabelle Oyot, donc vous accompagnez des entreprises de l'économie sociale et solidaire à impact social dans leur changement d'échelle. Qu'est-ce qu'on appelle le changement d'échelle ? On voit bien, on imagine bien ce que c'est, c'est-à-dire passer d'une certaine activité à une activité plus grande, on grossit ou on grandit, je ne sais pas, on définira les termes peut-être. Et qu'est-ce qui dans ce changement d'échelle, qu'est-ce qui vient vous chercher ? C'est l'entreprise qui ressent le besoin parce qu'elle y est acculée ou c'est elle est interpellée et elle a besoin de venir prendre conseil auprès de vous ?
Alors justement, dans le changement d'échelle, c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans l'économie sociale et solidaire, mais dans le secteur à but lucratif classique, c'est assez peu utilisé. Mm-hmm. Et quand on parle, pourquoi c'est spécifique au secteur à impact ou entrepreneuriat militant, c'est parce que ce qu'on fait grandir ou ce qu'on fait grossir, c'est l'impact social. Donc comme vous l'évoquiez, Françoise, c'est on essaye de le projet, il répond à un besoin qui est mal satisfait, on trouve une nouvelle solution. Mais ce qu'on veut faire changer d'échelle, ce qu'on veut faire grandir, grossir, c'est le fait que plus de personnes aient accès au logement. C'est le fait que plus de personnes aient accès à des soins de qualité à un prix abordable. Donc c'est ça qu'on veut changer. Après, la structure, c'est un moyen pour y arriver à mettre
son intérêt. En fait, quand on parle du changement d'échelle, on ne parle pas du changement d'échelle économique, on parle du changement d'échelle de l'impact qui était peut-être territorial sur un petit territoire et on a envie qu'il devienne national, régional, départemental, c'est ça ?
International,
universel et galactique.
Exactement. Et donc, c'est ça. Et donc, en fait, ça change aussi beaucoup les stratégies possibles de mise en œuvre. Comme on l'évoquait dans la première partie de l'émission avec la Fondation pour le logement social, où c'est des structures indépendantes qui vont porter et mettre en place les projets sur les territoires. Et donc, ça ne veut pas nécessairement dire que la même structure va grossir en tant que telle.
C'est-à-dire qu'on va parler plutôt de duplication, c'est ça ?
Alors ça peut être de la duplication, ça peut être, mais c'est surtout, soit c'est la structure en tant que telle qui va embaucher des nouveaux salariés sur différents territoires, donc là elle va grossir, mais ça peut être aussi très bien, elle va nouer des partenariats, elle va travailler en collaboration avec d'autres qui vont répliquer l'approche sur des nouveaux territoires.
Donc je reviens un peu en arrière, qui dit changement d'échelle de l'impact, mais qui nécessite forcément des changements structurels. structurelle, on est bien d'accord. Comment on accompagne les entreprises ou les associations qui veulent faire cette transformation, qui opèrent une transformation, sachant que depuis des années, on a toujours fait ça, je vois pas pourquoi on ferait autrement.
Alors, vous me posiez la question de comment est-ce que nous, par exemple, on vient nous chercher. Parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent, les structures, elles se disent, j'ai un projet qui marche très bien et je suis appelée par plein de personnes sur plein de territoires qui me disent, j'ai envie de faire la même chose que vous. Elles savent pas trop quoi répondre. Elles se disent, j'aimerais bien pouvoir partager ma méthodologie. En même temps, qu'est-ce que je leur donne? C'est quoi les conditions pour que la qualité soit similaire partout? Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Donc ça, c'est souvent comme ça qu'elles viennent à nous. Et l'autre, sinon, ça peut être aussi, on travaille beaucoup avec des fondations ou avec des financeurs qui nous disent on va donner de l'argent à une structure, on aimerait pouvoir qu'elle puisse le faire, enfin utiliser ce don de la meilleure manière. Est-ce que vous pouvez les accompagner dans cette phase de changement? Parce que dans changement d'échelle, il y a un mot qui est important dedans, c'est changement. C'est changement de est-ce que mon modèle, je vais devoir le répliquer tel quel sur un nouveau territoire? Mais, et ce qui fait écho à votre deuxième partie de question, c'est un changement aussi beaucoup de personnes.
De personnes, de structures.
De structures et de se dire comment est-ce que j'arrive à prendre du recul par rapport au projet que j'ai créé au début. Donc, le dirigeant a besoin d'être, l'entrepreneur militant, justement, a besoin
d'être assuré.
D'être assuré, de savoir aussi qu'il va potentiellement changer de métier, parce qu'avant, il était dans le feu de l'action et d'un coup, il va devoir potentiellement accompagner d'autres affaires, avoir des métiers peut-être plus administratifs, de management, de représentation, de levée de fonds, alors qu'avant l'intérêt même c'était d'être au cœur de l'accompagnement des personnes fragiles ou dans l'action. Et donc ça, c'est un changement qui est assez important pour...
Et puis qui va avoir après, je suppose, un écho sur l'ensemble des collaborateurs ou des bénévoles de ces structures si elles sont associatives.
Exactement. Dans la manière dont vous présentiez le sujet, il y avait une question de comment on grandit sans perdre son âme. Et son âme, c'est justement le sens de l'action, ce militantisme que sont venus chercher les salariés, les bénévoles, en s'impliquant dans la structure. Dans le changement d'échelle, c'est de se dire comment est-ce qu'on garde ça au cœur de l'action, parce que c'est ça qui en fait sa force, c'est ça qui en fait sa réussite, c'est potentiellement ça qui va faire que son modèle économique va aussi être équilibré parce qu'il y a des forces vives bénévoles qui s'impliquent. Donc comment est-ce qu'on arrive à garder ça alors que finalement on se connaît plus tous, au début ça va, tout le monde se connaît par le prénom et d'un coup on peut être dans des structures où il y a beaucoup plus de personnes.
Françoise, quand des sociétés, des associations, des fondations grossissent, est-ce que c'est une des questions qu'elle vous pose? On veut bien grossir, mais on a peur de perdre notre âme. Et qu'est-ce que vous leur répondez?
On leur répond que le fait de perdre son âme n'a rien à voir avec la taille qu'elles ont, que ce soit à l'origine ou à la fin, dans l'objectif qu'elles se sont fixés. Pourquoi? Parce que certaines associations perdent leur âme dès le départ parce que la fausse association qui correspond à une création d'entreprise de quelqu'un qui ne se lance pas comme entrepreneur mais qui dit je vais faire une association pour porter mon emploi. Donc là, c'est une approche qui a ses limites. Et ensuite, avec la taille, justement, c'est là où il est important que ceux qui sont à l'origine du projet, qui l'ont mis en place, sachent s'entourer, militent à l'intérieur de leur propre structure pour gagner à leur cause leurs bénévoles, leurs salariés. Et si cette gouvernance s'établit dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, nous, en tant que conseil, on a une approche qui est essentiellement pédagogique. On garantit à terme la pérennité du projet. Et quand le projet avance, quand il affiche des résultats, on est en mesure de convaincre les bénévoles de continuer à adhérer et à s'impliquer. On est en mesure de convaincre les équipes de se mobiliser. Et c'est un accompagnement à la fois en termes, je dirais, humanistes et en termes techniques. Dans nos professions, que ce soit expert comptable ou commissaire aux comptes, qui sont attachés à ce secteur-là, C'est un secteur où on ne vient pas sans affect. Hein. Donc,
il y a toujours un affect intact.
Quoi.
François Maillot, oui. dans le déploiement de ces changements d'échelle, comment on arrive à trouver le juste curseur en fonction des conseils d'administration, parce que ça c'est un de vos grands travaux, un de vos grands sujets de recherche et de travail, qui sont finalement des conseils d'administration à multiples facettes, donc ce qui veut dire que chaque conseil d'administration se travaille de manière différente à partir du moment où on souhaite un peu déployer son activité, soit pour avoir plus d'impact, soit déployer une activité plus économique.
Tout à fait. Je voudrais juste revenir par rapport au changement d'échelle, parce qu'on a pu faire des recherches qui montrent que les associations passent généralement un certain nombre d'étapes dans une sorte de cycle de vie, on pourrait dire, de l'association. Il y a tout d'abord la phase de fondation où les bénévoles, les fondateurs sont effectivement très impliqués. Et puis petit à petit, si l'association grandit, donc connaît une phase de croissance, progressivement, la gestion prend une importance plus grande. Et ça passe souvent, à ce moment-là, par l'embauche aussi d'un salarié ou de plusieurs salariés. L'un des risques, c'est qu'une fois cette phase de gestion passée, les bénévoles sont un peu fatigués, les salariés sont arrivés plus en nombre dans l'association. Et quelque part, on voit parfois dans les associations les salariés qui, de fait, prennent un peu le pouvoir. Et le conseil d'administration, les dirigeants bénévoles de l'association, une association qui devient un peu une sorte d'institution, voilà, sont un peu relégués dans un conseil d'administration que moi j'appelle façade. Où effectivement il en faut un, parce que effectivement la loi nous le demande, mais c'est pas là où ça se passe, c'est ailleurs, au niveau des dirigeants et par exemple des dirigeants salariés. Donc parfois on va même jusqu'à une phase qu'on appelle de ratification, c'est-à-dire où le conseil d'administration sert simplement à ratifier des décisions qui ont pu être prises avant par le président, par le directeur, etc. Et donc là les administrateurs se posent pas mal de questions. Donc on voit bien que un conseil d'administration dans une association, il peut être façade, au contraire il peut être très contrôle, c'est-à-dire très contrôlant, vouloir vérifier les comptes, la gestion, le travail, y compris des salariés et du directeur. Il peut être très militant. Vous avez des conseils d'administration qui se caractérisent justement par une forte adhésion aux valeurs fondatrices de l'association et qui se sentent avant tout à porter le projet de l'association et laissant la gestion à d'autres. Enfin, on voit beaucoup de formes de conseils d'administration. La difficulté étant finalement, on parle d'entrepreneurs militants, on pourrait dire de concilier une approche gestionnaire et une approche missionnaire.
Ouais, ça
serait un peu ça.
Alors justement, je vous voyais, ce qui est très amusant quand vous décriviez les différentes formes de conseils d'administration, c'est que tous ceux qui ont été confrontés à des conseils d'administration autour de cette table, vous ne les voyez pas, François, mais souriaient. Donc je pense qu'il y avait des modèles qui apparaissaient. Vous Isabelle, c'est un panel de structures que vous côtoyez régulièrement, c'est ça?
Oui, complètement. Après, c'est justement la force, je pense, du milieu associatif, c'est qu'on a une grande diversité de structures. Nous, ce qu'on voit, ce qui est important, c'est la cohérence. Et on en parlait tout à l'heure, même sur le modèle économique. Et de la même manière, entre la gouvernance et les équipes au plus opérationnelles, c'est d'avoir un bon alignement entre cette gouvernance, ce projet qu'on porte, ce modèle économique, pour s'assurer que chacun est bien à sa place. Donc ça c'est un peu macro, mais de manière spécifique, nous ce qu'on voit, c'est dans le changement d'échelle, très souvent, donc peut-être pour reprendre le cycle de vie. Au début, on a des conseils d'administration qui sont plutôt les amis ou le cercle proche des fondateurs qui s'engagent, et au fur et à mesure, on se retrouve avec des conseils d'administration qui jouent un autre rôle, qui ont des prises de décision qui sont sur des problématiques qui peuvent être beaucoup plus complexes, avec des montants en jeu beaucoup plus importants et donc des responsabilités plus importantes, et qui les administrateurs sont pas toujours outillés pour savoir pour.
Et c'est là où il faut faire la mutation des conseils d'administration, en mettant peut-être dans les administrateurs des gens à plus forte valeur ajoutée, qui peuvent être soit des experts comptables et des commissaires aux comptes qui viendraient prendre leur place dans ces... Alors pas celui de l'association, on est bien d'accord, Françoise, mais d'autres experts comptables, c'est-à-dire d'avoir des conseils d'administration plus outillés à accompagner, j'ai envie de dire, le dirigeant salarié vers le déploiement de son activité.
Ce qui est important, c'est de bien s'entourer, et donc que ça se passe au sein du conseil d'administration avec justement des des expertises, soit par exemple, si on veut lever des fonds auprès d'entreprises, de connaître le monde de l'entreprise, par exemple, et d'avoir des personnes au sein des bénévoles administrateurs qui connaissent ce monde. Donc, en tous les cas, et d'avoir des gestionnaires potentiellement, donc le poste du trésorier, de savoir comment est-ce qu'on gère, on suit un budget. Donc, pour moi, ça, c'est important, mais ça peut être au sein du conseil d'administration, comme ça peut être autour des
dirigeants. François, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose.
Non, moi ça me va tout à fait. Je pense qu'il y a effectivement un type de CA, un type de conseil d'administration que moi j'appelle le conseil d'administration outil, c'est-à-dire un conseil d'administration qui s'est constitué aussi autour d'un certain nombre de compétences et qui va pouvoir conseiller le président ou le directeur sur un certain nombre de dimensions. On a cité la collecte de dons, on peut citer effectivement les dimensions sociales, les dimensions de pourquoi pas fiscales, etc. Donc c'est un autre type de conseil où ce qu'on va aller chercher, c'est de faire rentrer dans le conseil d'administration des personnes à compétences. Mais attention, il ne faut pas que ces personnes à compétences considèrent que c'est la finalité de l'association d'apporter des compétences. La finalité de l'association, comme ça a été bien dit, ça reste la mission, ça reste le projet associatif. Et ces compétences doivent être mises au service de cette mission et au service de ce projet associatif.
Mmh. Quelle est la question finalement ? Est-ce qu'il vaut mieux grossir ou grandir ? Ou est-ce qu'il faut grossir en grandissant ou grandir en grossissant ? Qui répond ? Isabelle ? Françoise ? François ?
Moi, je pense qu'il faut faire grandir son projet. Ouais. Et après, pour moi, l'impact, c'est ça qui est le plus important. Et très souvent, on se trompe de combat. On veut faire grandir la structure. Donc, on veut la faire perdurer, faire lever plus de fonds. Alors que ce qu'on veut faire grandir, c'est sa solution. Mmh. Donc, ça veut dire lâcher prise pour certains des personnes. Et donc, il faut aussi grandir en tant que personne qui porte un projet, que ça soit le conseil d'administration, que ça soit les équipes, pour accepter aussi que ce projet puisse voguer de sa propre...
Est-ce que vous essayez de faire à Scale Changer aussi, c'est de faire grandir les collaborateurs, les parties prenantes de l'association ou de la structure entrepreneuriale, de les faire grandir en même temps, c'est-à-dire leur faire comprendre, leur faire prendre de la hauteur?
Quand
vous accompagnez une entreprise ou une structure?
Quand nous, on accompagne, on a un fort accompagnement des équipes, des personnes, parce que la clé de la réussite du changement d'échelle, c'est les hommes et les femmes. Et donc, nous, on accompagne énormément les acteurs dans cette prise de recul. Après, ce qu'on accompagne aussi, c'est les parties prenantes, on va dire, les fonds, que ce soit les financeurs ou les pouvoirs publics, pour qu'ils comprennent aussi les enjeux d'un entrepreneur militant en changement d'échelle, parce que c'est pas les mêmes chose que en amorçage, comme on le disait, enfin dans les différentes phases de cycle de vie.
Françoise, grandir, grossir et grandir et grossir. Dans quel sens on le prend ?
Grandir et grossir, je dirais porter à l'âge adulte. À l'âge adulte, un adulte responsable, autonome et qui sera en mesure de garantir la pérennité d'un projet dans l'évolution sociétale du projet qu'elle devra vivre.
Mmh. Et pour vous, François Maillot ?
Oui, grandir, c'est plus une question de taille, de maturité qu'une question de taille. C'est comme quand on grandit nous-mêmes en tant qu'adulte, on gagne en maturité, on gagne en expérience, et parfois notre croissance s'est arrêtée par contre. Et il y a au contraire une croyance que être plus gros, c'est mieux, et que c'est un indicateur de réussite. C'est parfois une croyance que malheureusement certains financeurs ont, parce que vous avez aujourd'hui pas mal de financeurs du monde associatif qui considèrent que c'est mieux d'avoir en face d'eux des structures plus grosses, et qui vont, à partir de là, avoir tendance à conseiller des fusions, des absorptions, des regroupements d'associations pour pouvoir avoir des structures en face qui ont plus de moyens, qui ont plus de compétences, plus de poids. Donc ça, c'est une bonne idée en soi. Mais on voit bien que, en fait, si on crée des fusions un peu artificielles où les projets associatifs ne sont pas tout à fait complémentaires, ou si on crée des regroupements un peu factices, ça fonctionnera pas non plus. Et parfois, on dit souvent que 1+1 vaut 2, mais souvent 1+1, ça vaut plutôt 1,8.
Mmh. C'est toute la question. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs, on appellerait ça la culture d'entreprise, mais aussi de l'ADN des associations. On voit souvent des associations qui, à travers le temps, ont toujours un peu ce même si, j'ai envie de dire, les gens changent, quelque part, il y a toujours ce même fil conducteur du fondateur qui pose dès le départ une sorte de graine qui, petit à petit, après, grandit et crée un arbre qui a toujours à peu près, alors avec ses forces, avec ses faiblesses, et avec les enjeux et l'idée originelle. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités de l'Écho des Solutions. Tout de suite retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Je rappelle que si vous êtes intéressé par les modèles sociaux, Ashoka et Scale Changer, vous avez publié un petit fascicule qui s'appelle Entrepreneurs sociaux, quel modèle économique innovant.
innovant pour changer d'échelle. On le retrouve où, Isabelle? On peut le retrouver sur Internet en téléchargement? On vous le demande? Comment ça se passe?
Alors, les deux, il est en téléchargement gratuit sur le site de Scalechanger, dans scalechanger.org. Et après, sinon, vous nous écrivez, puis on
bien
vous
évidemment.
Envoie une copie.
Et on prend
papier.
Une copine. Merci beaucoup, Françoise Boisvert. Merci, François Maillot. Merci, Isabelle Oyo, d'avoir été nos invités. J'espère que vous avez avancé sur cette question. Peut-on être entrepreneur et militant? Nous, on se retrouve tout de suite dans nos 7 minutes pour changer le monde avec Isa Terrier. On va évoquer le jeu comme élément pour permettre de mieux comprendre les ressorts du monde de l'entreprise et plus particulièrement encore celui de la place et de la carrière des femmes. C'est un serious game. Isa Terrier est notre invitée des 7 minutes pour changer le monde.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Et c'est le moment de retrouver notre invitée des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit d'Isa Terrier, cofondatrice de Bijoux. Bijoux, ça s'écrit B-E-J-O-U-E, parce que en fait, on joue. Bonjour Isa Terrier.
Bonjour.
Bijoux, parce que être joueur, vous êtes cofondatrice d'une société qui fait des serious games. Et vous allez nous expliquer d'ici quelques instants ce qu'est un serious game. Bijoux, c'était ça? C'était cette notion de bi, d'être et de jouer en même temps?
Exactement, et au début quand on a fondé Bijoux il y a maintenant 8 ans avec mon associé Coralie Fragnat, on cherchait un nom et c'est vrai qu'à l'époque il y avait d'autres entreprises mais c'était souvent game, play et on voulait remettre finalement l'humain au centre et on trouvait que bi c'était vraiment être et avec la notion de jeu à coller. Et après, nos clients se sont amusés de dire qu'on était un peu les joaillières du jeu avec le bijou. Donc voilà, la boucle était bouclée, ça nous allait très bien.
C'est vrai que vous êtes peut-être un peu des joaillières parce que dans votre boutique, il n'y a pas beaucoup de jeux, mais ils sont tous de qualité. On en évoquera quelques-uns autour de cet échange. Il y a un jeu autour des RH pour aider justement au recrutement et peut-être mieux connaître les personnes que l'on va recruter pour justement faire naître cette adéquation entre l'entreprise et la personnalité. Il y en a aussi un sur la RSE et on évoquera celui qui a retenu mon attention, qui s'appelle 1001 pas. Mais avant de parler...
Qui s'appelle les 1000 pas.
Pardon, les 1000 pas. Qui s'appelle les 1000 pas, le jeu qui permet justement donc de se mettre peut-être dans la peau d'une femme ou d'une femme de se mettre dans sa propre peau pour expérimenter ce que c'est qu'être aujourd'hui un parcours professionnel au féminin.
Oui, on va travailler sur toutes les thématiques qu'on peut vivre dans une carrière professionnelle. Ce qui est important sur les 1000 pas, c'est que donc on a lancé une grande consultation en novembre 2020 jusqu'à février 2021. Cette grande consultation, elle nous a permis de récolter 700 témoignages de femmes. Et là, ça a été le point de départ, en fait. C'est à partir de ces 700 témoignages qu'on a créé le jeu. On n'a pas voulu faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé un jeu et fait rentrer les témoignages dedans, c'est qu'on s'est appuyé sur ces témoignages, à la fois pour les mettre sur les cartes, mais aussi pour les utiliser comme mécanique de jeu. Je vous donne un exemple. Dans les témoignages, en fait, on posait 3 questions. On posait 3 questions. Les questions, c'était quels ont été les freins que vous avez rencontrés dans votre carrière professionnelle? Quels ont été les accélérateurs? Et si vous étiez présidente, quelles solutions mettriez-vous en place? On a eu dans les accélérateurs, notamment, la question de l'entraide et de la solidarité. Donc l'entraide entre les femmes, mais pas que. Dans une carrière, un accélérateur, ça peut être une rencontre, un manager qui vous fait confiance, etc. Et donc on a mis cette carte-là, on a mis notamment cette question-là dans les témoignages, sur les cartes, mais on l'a mis aussi en tant que mécanique de jeu. C'est-à-dire que vous pouvez aider les autres joueurs et les autres joueuses autour de la table. Mmh. Parce que le principe des 1000 pas, en fait, c'est vraiment de réaliser 1000 pas. Hein, c'est inspiré
du 1000 bornes.
Et en fait, on voulait prendre une mécanique de jeu assez simple que tout le monde connaît. Hein, on sait tous ce que ça fait d'avoir une panne d'essence et de rester bloqué pendant plusieurs tours. L'idée, c'était aussi de montrer que si on a une carte de la catégorie sexisme, par exemple, une carte de discrimination, il va falloir trouver la solution, la carte solution discrimination. Dans le jeu, on a 8 catégories. 8 catégories de cartes. Hein, on a modélisé les témoignages en 8 catégories. Vous avez des catégories sur l'argent, l'équilibre vie pro-perso, l'estime de soi, la maternité, les gardes d'enfants, le pouvoir, le recrutement et l'évolution de carrière, le sexisme et les stéréotypes. Et à partir de ça, on a réussi à dresser finalement un panel de tous les freins qu'une femme peut rencontrer dans sa carrière. Et on ne voulait pas rester seulement dans un constat de effectivement, ça va mal. C'est pas très heureux.
Vous vouliez construire aussi une possibilité pour les personnes de voir qu'on pouvait trouver des solutions et qu'il n'y avait pas de fatalité, en fait.
Exactement, et que ces solutions-là, elles existent et qu'elles peuvent être mises en place assez facilement dans les entreprises. Mmh. Donc, à la fois, cette prise de conscience, ok, quand vous jouez au mille pas, vous expérimentez au minimum vous-même, hein, dans votre partie de jeu, deux embûches, mais vous voyez aussi toutes les embûches que les autres personnes rencontrent autour de la table, hein, que ce soit une inégalité salariale. Mmh. Je peux vous en lire une, par exemple, pour que ça soit plus parlant. Si je vous pose une carte argent, inégalité salariale, vous allez avoir un témoignage. J'ai vécu des injustices salariales, j'ai dû monter au créneau lorsqu'un homme moins diplômé, disposant de moins d'expérience et ne sachant parler anglais, a été promu au même rang que moi, mais en gagnant 1000 euros de plus par mois. Mmh. Et à chaque fois, on a enrichi les témoignages de données chiffrées, en lisant beaucoup de rapports sur le sujet, et donc on sait aujourd'hui que les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 24% à celle des hommes. Mmh. Donc à chaque fois, vous apprenez quelque chose et finalement le jeu fait office de formateur ou de formatrice sur le sujet.
Est-ce qu'il y a des vraies prises de conscience dans les entreprises sur ces sujets? Vous parlez des 24%, Dieu sait si on l'entend très souvent dans les médias. J'ose espérer que c'est entendu par un certain nombre de dirigeants d'entreprises, que ce soit de TPE, PME, c'est parfois plus compliqué dans les grands groupes. Mais au-delà de ça, sur l'ensemble des autres problématiques que vous soulevez, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il y a un véritable impact d'un jeu comme ceci après l'avoir joué en entreprise? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se remettent en cause ou des collaborateurs qui se remettent en cause dans leur manière de fonctionner et d'être, ne serait-ce par exemple que dans l'entretien annuel?
Alors complètement, nous le jeu il est sorti en décembre 2021, on l'a joué beaucoup dans les entreprises, on a un atelier autour des 1000 pas qui dure 2 heures et depuis on a formé plus de 70 ambassadeurs, ambassadrices 1000 pas qui déploient le jeu dans les entreprises. Mmh. Et les retours, hein, ils sont que les 1000 pas permettent d'initier une sorte de feuille de route de l'égalité, donc d'aller sur des solutions à mettre en place qui vont être plébiscitées par les collaborateurs et les collaboratrices, mais aussi d'être, et d'ailleurs en premier, dans cette prise de conscience, les inégalités, on peut faire quelque chose, et surtout, c'est plurifactoriel. On ne se concentre pas seulement sur l'argent. Mmh. On va parler aussi des stéréotypes physiques, des stéréotypes de disponibilité, des stéréotypes de métier. Mmh. Dans certaines entreprises,
en fait,
effectivement,
toutes les images d'Épinal qu'on peut avoir, en définitive.
Exactement. Mmh. Sauf que là, en fait, on est vraiment sur un jeu de la vérité, c'est-à-dire que on est sur des témoignages qui sont véridiques. Mmh. D'ailleurs, je dis souvent, moi, j'aurais bien été incapable d'inventer certaines cartes. Hein. Je me serais trouvé peut-être trop caricaturale ou autre, mais ça existe.
C'est la vérité. On arrive au terme de cet échange, Issa. Donc finalement, en plus d'être un jeu, vous êtes devenu aussi, peut-être au fil des temps, un observatoire de l'égalité dans les carrières des femmes dans les entreprises?
Alors ça, pour l'instant, c'est super de voir plus loin et c'est fait partie aussi des ambitions, mais c'est encore trop récent pour avoir le recul sur les entreprises. Donc dans quelques mois, on lancera certainement un grand questionnaire dans les entreprises dans lesquelles on a
Vous avez joué. Ouais.
Exactement, pour voir l'évolution, ce qui a changé réellement et à partir de là, j'aimerais rediscuter avec vous et je vous parlerai de ce fameux observatoire.
Eh bien, on en rediscutera. Merci beaucoup, Issa, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous pouvez trouver ce jeu parce qu'il s'achète, il peut se jouer en entreprise aussi. Vous avez aussi des animateurs qui sont capables de l'animer dans vos
Exactement.
Entreprises. Vous allez sur millepas.fr, vous trouverez tout. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les autres jeux, la RSE, le recrutement, vous allez sur bijoue.com ou FR.
.fr
aussi. Et vous retrouverez tout cela. Merci beaucoup, Issa. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Écho des Solutions. On sera à Bordeaux, puisque c'est les Assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui se tiennent là-bas pendant 3 jours. Et on ira poser nos micros au cœur de ces assises. Voilà, bonne écoute des programmes de RCF. Vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast dédiées. À très bientôt. Au revoir.